Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro et nous allons accueillir Guillaume Dussault, fondateur du média La Sueur, spécialiste des sports de combat, ainsi que Mam Ibrahan, agent de William Gomis, combattant MMA. Bonjour messieurs, comment ça va ?
Bonjour, ravi, honoré d'être avec vous aujourd'hui.
Écoutez, ça va très très bien. Bonjour à tous et j'espère qu'on va passer un bon moment.
Merci à vous d'avoir répondu présent surtout. Je vais commencer par vous laisser vous présenter, chacun à votre tour.
Bah vas-y.
Vas-y, ok, let's go. Donc, Mam Ibrahan, fondateur de l'agence Mi Agency, une agence de talent, mais pas que, c'est aussi une agence qui travaille avec beaucoup de marques, une agence créative pour le développement et la conception de différents projets. Et aujourd'hui, bah, je suis là avec la casquette d'agent, manager, enfin plutôt manager qu'agent plutôt, de William Gomis qui fait du MMA et ça avait du sens d'échanger ensemble aujourd'hui.
Ok. Tu as été aussi athlète
Oui, j'en parle un peu moins. athlète de haut niveau. J'ai fait donc deux fois les JO, JO de Rio et JO de Tokyo, championnat du monde, championnat d'Europe, médaille européen, plusieurs fois champion de France.
Dans quelle discipline ?
Sur 400 mètres.
Un super palmarès. Ah, ouais. Un champion en face de toi là.
Ah ouais. Ça ne rigole pas. Bon, et puis moi, bah, donc, Guillaume Dussault, je suis fondateur de La Sueur, qui est un média sportif et culturel français. On fait des podcasts, on a un site internet, on est très présent sur les réseaux sociaux, on parle surtout de sport de combat et en particulier de MMA. Donc voilà, petit à petit, on a grandi. Aujourd'hui, c'est une société qui prospère. Et okay. Bah voilà.
Ok, du coup tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, mais on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un podcast sur le sport business. Donc j'aimerais que tu nous dises à quel moment tu as lancé ce média et comment t'es venue l'idée.
Alors en gros, moi j'ai toujours été passionné par les sports US. Et donc, j'ai fait école de commerce. À la fin de mon parcours en école de commerce, j'ai fait un stage de fin d'études dans l'agence de com qui s'occupe de la NBA en France. Et je m'occupais de tout ce qui était relation avec les blogs, avec les influenceurs. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était possible de gagner sa vie dans le sport sans être dans une grosse entreprise. Okay. Parce que bah, c'était difficile de rentrer dans une grosse boîte. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire le média La Sueur. À la base, ça devait juste être quelque chose à côté de ce que j'allais faire par la suite. À la fin de mon stage, mes parents ont été très, 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 très gentils puisqu'ils ont dit « Bon, bah, on peut te laisser un an pour faire ça. » C'est-à-dire un an, t'habites à la maison et tout, donc la vie, elle n'est pas terrible, terrible pendant un an. Mais au moins, ils ne mettaient pas la pression parce que l'école de commerce, ça coûte cher et tout. Donc, ils étaient en mode « On te laisse un an. » Et donc, pendant un an, tu peux faire ça à fond. Donc, il y a bien évidemment eu un moment, c'était « Bon, Guillaume, t'es toujours dans ta chambre, mais est-ce que tu travailles vraiment ?» Mais voilà, donc pendant un an, ils étaient en mode On voit ce qui se passe. Au bout d'un an, j'ai commencé à gagner des sous. C'était pas énorme, je crois que c'était peut-être 600 euros par mois, un truc comme ça. Mais au moins, ils ont vu que, ok, bah, en un an, tu commences à faire 600 euros par mois. Ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose, quoi. Et donc, voilà, petit à petit, ça a grandi jusqu'à ce qu'on est passé en société il y a 2 ans. Et puis maintenant, on a des salariés, des locaux, voilà.
Okay. Mais donc, depuis le début, tu avais quand même cette idée de capitaliser dessus.
Alors en fait, depuis le début, en gros, moi je suis aussi très friand avec donc Russ, qui est mon ami d'enfance de lycée, de tout ce qui est médias américains. Et nous, on a très vite vu que ce soit sur les podcasts, que ce soit même sur Internet, sur le digital, les gens arrivent à gagner leur vie avec ça. Et c'est tout simplement possible de vivre de sa passion. Donc nous, on est passionnés par les sports, on est passionnés par les sports de combat. Mais au bout d'un moment, c'est intéressant aussi de se dire, tu vas consacrer énormément de temps à ça, c'est bien aussi de gagner sa vie. Donc on savait que c'était possible aux États-Unis, mais en France, comme on n'était pas vraiment dans le monde de YouTube, dans tout ça, on ne savait pas trop comment. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais au bout d'un certain temps, on a réussi à avoir des partenaires en direct qui nous accompagnent, aussi les pubs automatiques qui permettent aussi de gagner notre vie. Et puis petit à petit, il y a les OPSP, tout ça qui se met en place.
Okay. Parce que justement, on dit souvent que c'est difficile pour les médias indépendants de trouver un modèle économique. Donc toi, depuis le début, tu savais que ça allait être le sponsoring. Enfin, comment tu as établi cet aspect-là?
En gros, moi, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui étaient intéressantes pour les médias. C'est, pour les médias ou même pour les sportifs. En gros, c'est soit on va toucher des masses. Par exemple, quand on est dans le football, où là, si tu dis n'importe quoi, tu joues à Angersco, qui est un très bon club, c'est ma ville natale et tout, tu vas avoir beaucoup moins de sponsors que si tu es au Paris Saint-Germain. Alors tu touches énormément de gens à Angersco, mais parce que c'est un sport qui n'est pas de niche. Alors que par contre, si on est dans le MMA ou le curling, par exemple, tu vas peut-être toucher que 100 000 personnes, mais le mec qui touche 100 000 personnes dans le curling, c'est le numéro 1 du curling, et donc là, il va réussir à avoir des sponsors. Et nous, en gros, on a toujours été dans ce côté. D'un autre côté, il faut parler au public un peu mainstream pour faire un petit peu de volume sur les pubs automatiques. Mais de l'autre côté, rester avec ce qui nous parle, donc à savoir des athlètes qui sont un petit peu moins connus ou des contenus qui vont un petit peu moins parler aux gens. Mais comme on est dans un sport de niche, on va pouvoir attirer des sponsors de cette manière-là. Okay. Parce qu'ils vont se dire, bon bah ok, on touche peut-être que 3000 personnes sur un contenu, sur je sais pas, une petite salle de MMO ou quelque chose comme ça. Mais ces 3000 personnes qu'on touche, ce sont des pratiquants.
Mais tout à l'heure, tu me parlais de ce switch que vous avez fait au niveau du sport. Aujourd'hui, c'est plus spécialisé dans les sports de combat, mais au début, c'était plus le basket, etc.
Ouais.
Et le basket qui n'est pas forcément un sport de niche. Est-ce que ça a été un plan par rapport au modèle économique de se dire, bon, on va transférer sur un sport de niche pour avoir une plus grande communauté?
Ah oui, pas du tout. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que à la base, donc moi, j'avais une appétence pour les sports de combat, mais j'étais vraiment passionné par le basket et le foot US. Et mon ami d'enfance Russ passait son temps à me parler de MMA, de sports de combat. Mmh. Et à la base, en gros, il écrivait une fois par semaine sur le site. Ensuite, on s'est dit, bon bah 2019, ça y est, c'est la fin de tes études, est-ce que tu rejoins full time? Et t'es en mode, ok, c'est possible, on passait beaucoup plus de temps ensemble. Donc forcément, quand il y a quelqu'un qui vous parle H24 de sa passion et qui arrive à la transmettre, bah, on s'est dit, bon bah vas-y, on va y aller à fond. On a lancé le podcast aussi, donc forcément, okay, quand on lance un podcast, on en parle toutes les semaines, donc t'es beaucoup plus investi. Et c'est vraiment, ça s'est fait de manière complètement organique, qui fait que, en gros, pour la partie sport US basket, bah, je me retrouvais un petit peu tout, comme ce qui se passait avant. C'est en soi, j'étais tout seul sur la partie sport US alors que j'avais trouvé quelqu'un avec qui partageait la passion des sports de combat.
Ouais. Okay. D'accord. Et le move a été très très smart. Hein. Très très smart, le move.
Oui, bah, finalement, oui. Avec le recul aujourd'hui, on se dit que le move a été très smart, mais à l'époque, c'est pas comme si c'était il y a des années non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était en 2017, il n'y avait pas Cyril Gane, il n'y avait pas Saladin Parnasse, il commençait, on va dire. Morgan Charrière, il commençait. Enfin, il n'y avait pas ces stars.
Il
n'y
avait pas, cet engouement, il n'y avait pas.
Le MMA n'était pas légalisé en France.
Exactement, maintenant ça change énormément.
Il y a une vraie tendance.
Voilà. Il y a une vraie tendance et vous avez un vrai créneau. Moi, pour la petite histoire, je connais très bien Mathieu Fortin qui a été stagiaire chez vous. Et à l'époque, lui, c'était plus pour des interviews NBA. Il avait des accès assez fous dans les locker rooms, les interviews en plus à la Quinry où les joueurs sont en train de se préparer. Mais en même temps, il y a le journaliste qui était présent et on trouvait ça très, très fort. C'était même hyper sympa de voir ça. On était très contents pour lui. On a vu cette évolution. Et là, quand on voit l'évolution que vous avez sur ce côté MMA, les reportages aussi faits, c'est des reportages vraiment de qualité. Ça permet aux gens d'avoir une vraie exposition, mais un vrai inside de ce qui se passe dans le MMA avec Brandé Lassueur. Donc non, franchement, c'est très très cool de vous voir et de vous recevoir aussi aujourd'hui.
Merci. Et puis ah oui, pardon. Et pour le switch aussi, ah oui, c'est ce qui était important, c'est que justement quand il y avait Mathieu et même quand on faisait tout ce qui était autour de la NBA. Moi, ce qui me frustrait un peu, c'était ça, c'est de dire, ok, pour le basket, on va pouvoir faire telle ou telle chose, mais très rapidement, on atteint un espèce de plafond de verre qu'on n'atteint pas dans les sports de combat. Parce que dans les sports de combat, on peut se dire, bah, par exemple, William Gomis, on peut dire, prochain combat à UA Warriors à Abu Dhabi ou ailleurs, on peut se dire, on va le suivre de sa préparation jusqu'au combat, et on peut vraiment tout faire avec lui, on peut faire des contenus qui nous font vraiment kiffer. En basket, bah, va falloir gérer le coach, l'agent, ensuite l'équipe, ensuite la ligue. Ouais. Enfin bref, meilleur des cas, on a le gars pendant 10 minutes et c'est déjà très bien. Et pour quelqu'un qui a envie de toujours proposer les choses les mieux et puis même d'aller au fond, c'est pas possible. Okay.
Ouais. Toi qui gères justement William Gomis, quel intérêt pour un combattant comme William Gomis ou d'autres d'être présent sur un média tel que la Sueur?
Bah, déjà, parler à, entre guillemets, même si c'est pas qu'une niche, mais à une niche de fans de MMA. Avoir des gens qui sont pertinents, qui ont cette appétence pour le MMA, pour les stats, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de stats dans le MMA, le nombre de victoires, le nombre de défaites. Aujourd'hui, le MMA a un engouement en France qui est assez incroyable. Hein. Nous, on a assisté assez rapidement au premier combat légalisé en France et c'était assez fou de voir aussi les connaissances, de voir aussi l'engouement et les personnes qui sont un peu derrière. Quand tu vas aujourd'hui dans une salle, le nombre de personnes qui pratiquent le MMA, c'est assez fou. Aussi les communautés, parce que les gens se connaissent. D'avoir aussi vu le MMA à l'étranger via Williams, puisqu'on a été en camp d'entraînement à l'American Top Team et à Sanford en janvier. Les gens, c'est incroyable, quoi. Enfin, on a rencontré on a des anecdotes qui sont assez folles, plus les unes que les autres, tellement les gens ont ce côté MMA dans le sang. Déjà, pour répondre à ta question, sur le côté contenu, la sueur aujourd'hui, je sais pas si c'est les numéros en France au niveau du MMA pour les contenus diffusés, les articles et autres. En tout cas, c'est de qualité. Tous les gens qui regardent, c'est limite, je sais pas si vous avez poussé votre SEO ou pas, mais pour le MMA, c'est la sueur en France pour moi. Et dans un deuxième temps, on va tous sur Sherdog pour regarder les stats des combattants. Mais voilà, ça doit rentrer dans la promotion aujourd'hui d'un combattant, dans son image, c'est de travailler justement avec un média fort comme celui-ci sur la France. Après, à l'étranger, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir dire qu'il doit faire ci, ça, ça. Mais en tout cas, voilà, avoir un contenu là, avoir un suivi, les insides. Aujourd'hui, les gens, ils se battent pour les insides. Ils veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur. Nous, beaucoup dans le sport de haut niveau, sur des gros championnats, sur des JO, tu as des amis qui sont dans n'importe quel pays qui vont t'appeler à comment c'est le village, etc. Comment se passe ta préparation. Et on voit que les vues qu'il peut y avoir sur certains types de contenu. La compétition, c'est super. La compétition, on la regarde à la télé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et les gens veulent justement ces moments-là. Donc voilà. Et aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, le smart move, c'est aussi... aujourd'hui, on est dans une inflation de combattants, on est dans une inflation de sponsors autour du MMA, et c'est de trouver les lieux où tu peux communiquer d'une bonne manière, et c'est le type de média où il faut être, et même peut-être être sponsorisé d'ailleurs, parce que vous êtes une société maintenant. C'est aussi ça, c'est aussi du business, c'est savoir bien se placer. Ce qu'ils ont fait avec Cyril Gane, son reportage.
On va en revenir après aussi, voilà, on va en reparler.
C'est des choses qui doivent être dans la communication d'un combattant de MMA aujourd'hui, surtout en France, sachant qu'on commence à avoir des combattants avec de très belles communautés. Et voilà.
C'est une société aujourd'hui, la sueur, c'est une marque. Vous avez d'ailleurs développé du merchandising autour de la sueur. J'ai vu des collaborations avec Champion, notamment. Comment ce genre de connexion s'est faite?
Tout ce qui est merch, on a quelqu'un qui s'appelle Big Ben qui nous accompagne pour tous nos projets parce qu'on a lancé nos savons aussi. Donc c'est la personne un peu de l'ombre pour la sueur qui développe toute la partie un petit peu tech, enfin tout ce qui fait que la machine marche très bien. Et en gros, lui aussi, il est très 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 orienté vers les US. Et en gros, on n'a jamais été trop sur développer notre merch, mais il était, les gars, vous êtes, il faut en faire, parce que tout le monde en fait. Il y a forcément des demandes, et c'est vrai qu'on a des demandes de gars qui disent est-ce qu'on peut avoir un t-shirt, est-ce qu'on peut avoir, parce que nous aussi on porte les t-shirts, à la base c'était juste pour dire sur les événements, comme ça on voit bien qu'on est une team et tout ça. Donc on a lancé ça, mais sans prétention, à la différence du savon où là c'est vrai, il y a vraiment une volonté de notre part. Donc et ensuite c'est les marques naturellement qui vont nous contacter. Par exemple, on est sponsorisé par Venom qui est dans les sports de combat, et eux on a parlé pendant très très longtemps. Il y avait aussi d'autres annonceurs, ensuite ça s'est fait naturellement parce qu'ils étaient en mode on sponsorise l'UFC, là on veut frapper, il faut aussi un gros coup sur le marché français, donc pourquoi on se mettrait pas ensemble, et voilà.
D'accord. Si demain, par exemple, la sueur voulait lancer une collab, la sueur X William Gomis,
par exemple,
comment ça se passerait, comment ça se gérerait au niveau des droits, etc.
On peut commencer la négo maintenant. Non, en vrai, non, après, si on venait en parler, ça serait un peu plus en off, mais la connexion, elle est faite sur une rencontre un peu anodine, on va dire. Et après, c'est sur les projets, c'est-à-dire que demain, un combattant qui vient avec un projet clair, avec des datas aussi, Parce que quand tu fais n'importe quel business, c'est quoi? C'est une ROI? Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est d'avoir un plan, c'est d'avoir comme ce qu'on prépare pour lui, puisque ça fait maintenant, ça va faire un peu plus d'un an qu'on travaille avec lui. On l'a accompagné dans divers sujets. Il a été hyper réceptif, hyper créatif aussi. Je pense que c'est aussi important d'avoir des mecs qui savent jouer le jeu. Et après, bah, par rapport à ce qui va être maître hein, du truc, même si... les gens l'oublient, c'est ses résultats. C'est le nombre de KO qu'il va mettre, le nombre de victoires, le nombre de... Enfin, tout ce qui sera mis en place, ce qui est fait déjà en ce moment, ce qui est assez fort, c'est que l'UFC commence à diffuser quasiment toutes les grosses organisations. Et donc ça, c'est super de retrouver tout ça sur un lieu. L'ARES, c'est dingue ce que Fernand Lopez met en place en si peu de temps pour la communauté française. Et pour le marché français surtout. Donc du coup, si on devait commencer à tracter, bah, il sait déjà que j'ai peut-être envie de discuter avec le tour de William. Mais voilà.
Avec le rôle de l'image là, comme tu dis, est-ce que tu penses que vraiment le plan sportif aujourd'hui il est au premier plan? Est-ce que si finalement on sait pas bien se vendre en tant qu'athlète, en tant que combattant, on peut avec des résultats, bon peut-être pas non plus chaotiques, mais des résultats pas si fous que ça, s'en sortir très bien parce qu'on sait se vendre, parce qu'on a une bonne personnalité.
Au MMA, je sais pas trop parce que tout le monde parle de Conor McGregor. Mmh. C'est l'exemple ultime, c'est celui qui a fait le plus d'argent, qui a su, entre guillemets, se mettre en avant et surtout a su négocier avec Dana White. Mais Conor McGregor, il a une histoire déjà qui se vend super bien. Il a une histoire de folie.
Un bon storytelling.
Exactement. Et je pense que ce qu'on oublie beaucoup, et le sport, on est là pour, entre guillemets, les émotions. Les émotions, c'est la seule chose que tu peux pas, entre guillemets, acheter. Mm. Et lui, il a son storytelling qui était bien défini. Il a su, entre guillemets, capitaliser sur une image où, en Irlande, enfin que ça soit l'Irlande, la Grande-Bretagne, etc., qui aime de base la bagarre. Il a su rendre le côté bagarre vraiment, mais il a aussi rendre le côté un peu luxe. Il a su se donner une image, il a su vraiment capitaliser sur un créneau qui touchait plus que le monde du MMA. Et derrière, on parlait que de lui tout le temps dans divers médias, et c'est ça qui a été fort. Après, sur le côté MMA, il a eu aussi ses résultats. Et là, sur la fin, ses derniers résultats, qui gagnent ou qui gagnent pas, les gens, la marque Conor McGregor, elle est déjà assise. Ouais. Donc du coup, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent « Ouais, vas-y, je vais faire de l'influence, je vais faire des réseaux sociaux, je vais faire du placement de produits, je vais faire ci, ça va me rapporter de l'argent. » Mais in fine, ce qui te rapportera toujours le plus d'argent, c'est ça reste pour certains leur combat, pour l'instant, je pense. Mais tu es obligé de capiller... t'es obligé d'avoir une bonne image. Les personnes qu'on a citées tout à l'heure, ils ont tous au moins 80K aujourd'hui. Ils ont une belle communauté, les gens les suivent, les sponsors les suivent, ça marche bien, mais parce qu'ils ont déjà été performants, ils ont des histoires qui sont bonnes, et derrière une communauté qui fédère et qu'ils ont pu créer d'une belle manière.
On parle du cas Conor. Est-ce que vous pensez que Conor, il a game changé le MMA?
Game changer, oui et non, parce que le modèle qu'il a mis en place, c'est un modèle qui existait sans doute dans d'autres sports, où d'autres figures avaient cette image-là, mais lui, il l'a mis dans son sport à lui. Donc ouais. Après, est-ce que c'est vraiment lui le game changer? Oui, pour certaines personnes. C'est un mec quand même qui a été assez rapidement genre dans GQ, qui a touché vraiment une communauté qui avait rien à voir avec le MMA. Et c'était pas que le mec qui était dans une cage et qui se battait pour beaucoup de personnes. Donc je vais dire oui, sans doute, mais après, parce que je connaissais peut-être pas assez les personnes qui étaient là avant. Okay. Et en tout cas, dans ce créneau-là, vraiment toucher la partie un peu luxe, des marques et un nouveau marché, je pense que oui, ça a été
un game changer. Ouais. Je vais revenir sur le côté merchandising dont on parlait tout à l'heure. Au-delà de l'aspect financier, quel bénéfice une collaboration avec Champion, par exemple, apporte?
Ah oui, pour un média comme vous. Pour le coup, tout ce qui est la partie merch aujourd'hui de la sueur, nous, on ne le pousse pas vraiment. C'est vrai. Enfin, ce côté-là, on a à chaque fois fait ça parce que les gens nous le demandaient. Mais sinon, quand on mène à bien des projets aujourd'hui, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas grand quand je dis pas grand chose, si on se positionne pas sur 15 000 trucs, on lance pas 15 000 trucs. Parce que, par exemple, le merch, vous nous avez jamais vu faire de post où on dit bon bah, ou de story qui renvoie vers la boutique, parce que pour l'instant, ça reste complètement à côté. Si demain on fait une vraie collab avec un vrai truc, quand je dis un vrai truc, c'est on lance un blouson, on lance quelque chose comme ça, bah, on va prendre beaucoup de temps pour le lancer, pour se dire bon bah, il faut que ça marche ensuite. Parce que, au-delà d'avoir de la communauté, avoir des gens qui nous suivent, si on a, je sais pas moi, 1 million de personnes et que le gars il lance son truc mais que personne le prend, c'est terrible. Donc il faut vraiment se dire ok, on va pousser ça, on va bien travailler. Bah, par exemple, les savons, ça nous a pris un an et demi, et quand on l'a lancé, bah, aujourd'hui ça marche très bien parce que les gens ils savent que un, le produit est cool, et les gens font la com naturellement.
En réalité, ça veut dire qu'il faut forcément avoir une communauté déjà installée pour lancer du merch.
Pas forcément une communauté déjà installée, mais on va dire il faut que le 1, enfin pour moi ce qui est hyper important, c'est que le produit soit hyper quali, parce qu'il y a plein de mecs qui lancent des trucs. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le merch des frères Diaz, donc Nate et Nick Diaz, donc ils sont très connus. C'est pourri, c'est vraiment pourri, ça coûte une blinde, c'est un truc, ils ont fait ça par dropshipping ou je sais pas trop, c'est nul, enfin le truc il est fin comme ça, le sweat il coûte 80 balles, enfin on est dégoûté quand on l'a acheté, mais c'est les frères Diaz, ils s'en foutent parce qu'ils savent que forcément les gens vont acheter, mais quelqu'un qui a par exemple Morgan Charrière, lui quand il a lancé son merch, ça lui a pris beaucoup de temps, là il a lancé sa nouvelle collection, j'ai pris le t-shirt, bah voilà c'est un truc qui est hyper quali, ça coûte, ok c'est 60€, mais c'est un t-shirt en mode sport, quand tu prends tu vois que c'est 60 balles, on voit les 60 balles, on est content de l'avoir acheté, et je pense qu'ensuite il y a des gens qui vont acheter les fringues de Morgan sans même, je vais pas dire connaître Morgan, mais en tout cas se dire juste parce que la fringue est cool, on va l'acheter. C'est à partir de ce moment là où du coup le merch c'est pas juste parce que les gens te soutiennent, c'est parce que les gens trouvent aussi qu'il y a de la qualité dans ton produit, comme un peu ce qu'a fait, c'est complètement différent, mais Kanye West avec Yeezy, en gros de base les gens achetaient ça parce que c'était lui, maintenant les gens achètent ça parce que les fringues sont cool aussi.
Non c'est vrai.
Vous en parliez tout à l'heure des inside, du côté inside, vous l'avez fait avec Cyril Gane lors de sa préparation face à Francis. Comment déjà la connexion elle se fait et comment on a l'exclusivité?
Ah bah alors après Cyril on connaît depuis très longtemps, depuis qu'il a commencé le MMA. Il y a plein de gens. Et puis aussi, on connaît très bien Fernand, on est amis avec Fernand, on a une émission hebdomadaire avec Fernand. Mais après, pour tous les athlètes, par exemple, il y a Axel Sola qui a fait les championnats du monde amateur. En fait, les gens retiennent aussi à chaque fois Cyril parce que ça brille. Voilà, mais Cyril, depuis même bien avant, enfin quand il était Singapour, en Corée du Sud, on était là aussi pour son deuxième combat à l'UFC. Enfin, ça fait longtemps qu'on suit, donc c'est vrai que c'était l'explosion avec le combat contre Francis. Mais on a fait tout ce parcours-là. Axel Sola qui a fait les mondiaux amateurs, on était à Bahreïn pour le suivre, donc il y a énormément d'athlètes qu'on suit, mais c'est vrai que nous à chaque fois l'objectif quand on suit ces athlètes là c'est de se dire bah c'est intéressant aussi de raconter une histoire avec les gens et de voir nous qui progressons en termes de technique et puis aussi enfin technique au niveau, on va dire au niveau du matos, au niveau des micros et tout, et voir aussi le combattant qui avance dans sa carrière, et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est pas forcément de faire des one shot ou bah, par exemple là Cyril contre Francis, bah c'était forcément le combat le plus intéressant. Ouais. Mais quand on regarde tous les documentaires qu'on a fait sur Cyril, toute la préparation, vous pouvez voir l'évolution dans son corps, l'évolution en termes de technique, l'évolution dans ses entraînements. Et du coup, ça raconte aussi une histoire. Et c'est ce qu'on aime bien faire, c'est se dire, on va commencer avec un athlète au début, ou en tout cas, à un moment donné où il se passe quelque chose, et ensuite le suivre aussi longtemps que possible, parce que les gens, ils vont aussi se prendre au jeu avec de l'athlète et le découvrir, parce que Cyril, il n'a pas du tout besoin de nous aujourd'hui. Enfin, c'est l'athlète de sport de combat le plus suivi en France. Mais au début, c'était aussi intéressant, je pense, pour lui de se dire il n'y a pas que le côté sportif et les gens découvrent aussi la personne avec nos documentaires.
Du coup, à quand le documentaire Netflix La Sueur? Cyril Gane.
Ah bah ça, mais ce serait superbe. Hein, mais c'est quelque chose où on y pense forcément, que ce soit sur Cyril ou sur d'autres athlètes. Hein. Mais ça, c'est des projets qui mettent beaucoup de temps à se faire. Il faut aussi à chaque fois avoir... Parce qu'on a eu pas mal de discussions avec différentes plateformes autour de ça. Mais c'est vrai que ça prend toujours beaucoup de temps. Il y a aussi tout ce qui est liberté créative qu'on n'a pas forcément, alors que là, c'est notre propre plateforme. Mmh. Et c'est quelque chose... Forcément, on y pense, mais il faut aussi que ça se fasse... en temps voulu, donc pas précipiter le truc et soit se faire bouffer par la machine ou soit que le truc soit pas intéressant, parce que c'est ce qui est difficile aujourd'hui avec nous, c'est qu'on est à un stade où on est en train d'avoir atteint peut-être le maximum de fans hardcore. Et donc aujourd'hui on est obligé, on commence à toucher des gens qui ne suivent que le MMA que quand il y a Cyril qui combat ou quand il y a Conor McGregor qui combat. Mais quand on fait ces contenus-là pour les gens de ce type-là, les fans hardcore s'y retrouvent pas parce qu'ils sont en mode, bah les gars, vous parlez tout le temps du mec qui est au prélim de l'UFC ou qui est pas à l'UFC, mais moi je connais pas du tout ce mec-là.
Ouais,
Et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Donc si on fait quelque chose forcément avec un énorme acteur comme ça, bah faut réussir à satisfaire notre public hardcore et aussi le public mainstream. Mais c'est très compliqué de trouver un juste milieu.
Ouais, l'équilibre est compliqué à trouver. Maintenant, on va parler de... du business du MMA au global, en globalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'économie du MMA? Parce que, par exemple, en UFC, on parle souvent de Dana White, il exploite ses combattants, etc. Comment vous le percevez, ça?
En gros, que ce soit le MMA ou par exemple le kickboxing ou la boxe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des organisations à chaque fois hyper différentes. L'UFC aujourd'hui, les gens disent Dana White, il exploite les combattants. D'une certaine manière, je suis d'accord, mais sauf que à l'UFC, il y a toute une économie qui sert à vendre l'UFC, à la différence de la boxe anglaise où en gros, si vous voulez, il y a un événement, l'événement génère 120 millions. Et à la fin, sur les 120 millions, il y a peut-être 20 millions qui vont à l'organisation, le reste, les 100 millions vont dans la poche des combattants, ce qui fait que le promoteur, quand il fait un autre événement, il repart de zéro. L'UFC, ils sont dans un délire où c'est 84% de l'argent va à l'UFC et 16% aux combattants.
Okay.
C'est scandaleux sur le papier, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a un athlète qui signe à l'UFC, ça veut dire quelque chose. Alors qu'en boxe anglaise, si on dit aujourd'hui, là maintenant, quelqu'un signe avec Eddie Hearn, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas le même, le même impact.
Ouais,
okay. Donc c'est toute l'économie de l'UFC aujourd'hui, c'est l'organisation mise surtout sur elle, sur l'organisation pour être indépendante vis-à-vis des stars. Parce que c'est vrai que par exemple, William, d'ici quelques années, c'est une superstar à l'UFC, il est champion, et là il y a le Bellator qui arrive avec un super contrat. Si William part au Bellator, l'UFC, en ayant investi sur la marque UFC, ils ne vont pas être dans une situation où, une fois qu'il a rendu sa ceinture parce qu'il est parti au Bellator, ils sont dans une situation terrible. En boxe anglaise, quand il y a Canelo Alvarez qui part de Golden Boy Promotion, Golden Boy, donc d'Oscar De La Hoya, il se retrouve sans rien du tout. C'est scandaleux d'une certaine manière, mais d'un autre côté, les gars ont énormément d'opportunités aussi. Enfin, je veux dire, Conor McGregor aujourd'hui gagne peut-être 50 millions par combat, mais il reste sous-payé. Sauf que sans l'UFC, il n'aurait pas pu avoir le combat contre Mayweather, il n'aurait pas eu cette plateforme-là pour développer son whisky. Voilà, c'est l'UFC apporte aussi une plateforme qui fait, par exemple, Cyril Gane, il est sous-payé par rapport à ce qu'il rapporte à l'UFC, mais la plateforme UFC lui permet d'avoir toutes les opportunités qu'il a aujourd'hui, qui fait que s'il était un peu seul, comme par exemple Tony Yoka ou Teddy Riner, qui eux ont des résultats de malade, mais eux, ils n'ont pas une organisation pour les pousser, pour les taguer, qui à chaque fois qu'il y a des. Qu'ils ont un combat ou qu'ils ont une sortie, il y a des reportages qui sont faits sur eux, plein de posts qui sont faits sur eux, qui font qu'ils sont quand même obligés, eux, d'activer leurs propres réseaux sociaux de leur côté. Et aujourd'hui, en regardant 3 ans, Cyril Gane, il a réussi à les dépasser en termes de following sur Instagram. Alors qu'il y a 3 ans, personne ne connaissait Cyril.
Tout ça, il y en a plus que les deux. Tellement l'engouement et tellement les personnes qui sont derrière l'UFC. Quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent l'UFC Fight Pass pour voir des combats et au final pour regarder tout le monde et ça bénéficie à tous. Et ça, c'est un système que, qu'une fédération ne peut pas avoir, qu'un club, qu'une organisation qui part de zéro ne pourrait pas avoir. Et c'est vrai que la promotion, le côté promoteur, aujourd'hui, quand on parle de l'UFC, on n'associe pas le mot promoteur avec ça. On parle de l'UFC, d'une organisation globale, d'une marque. Il y a des mecs un monsieur comme Francis, il a joué dans des films. Parce qu'il est à l'UFC. Et demain, aux États-Unis, c'est pas comme la France, sur la partie un peu business. Aux États-Unis, on ne dit pas vas-y, envoie ton CV, qu'est-ce que tu veux. Quand on dit ah, t'es à l'UFC, ok, tiens, il y a un rôle sur ça, on cherche un fighter pour ça. Et là où t'as complètement raison, c'est que c'est un tout et qui permet en fait à tout le monde, même si on aimerait que les combattants soient plus payés, ça c'est clair, net et précis, on est complètement d'accord, surtout pour le sport qu'ils font,
ils risquent leur vie,
c'est clair cette notion là et je pense qu'on l'a pas encore beaucoup en France, même si un gars comme Francis, comme Cyril aussi, ce côté aussi entrepreneur, on le voit beaucoup. Et c'est le mindset Quinry, ça. Ouais. C'est vraiment le mindset Quinry, de créer tout un écosystème qui fait que tu sois dans la cage ou pas, tu gagnes de l'argent. Et eux, c'est ce qu'ils font. c'est ce qu'ils font parce que au quotidien, les accords qu'ils font avec toutes les organisations aussi, ça permet aussi de faire eux, ils gagnent de l'argent, mais ces organisations-là aussi en gagnent, donc c'est bénéfique pour tous.
On peut donc parler du développement du MMA en France avec Ares Fighting, on en a parlé. Est-ce que en France, les combattants pourront générer des revenus à la hauteur de ce qu'ils représentent?
Je pense que c'est dans l'idée de toute l'organisation Ares, puisque quand tu vois les prize money et les primes de KO ou autres qui sont mises en place, ça montre qu'ils ont ça, ils ont cette notion d'aider et de développer les combattants en leur permettant de bien gagner leur vie et également en apportant une culture MMA nouvelle, parce que quand quelque chose est nouveau, un produit est nouveau, il faut que les gens aussi s'habituent. Et là, quand tu vois ce qu'ils mettent en place, le fait d'avoir des événements récurrents et pas ponctuels, ça va vraiment permettre à tout le monde d'aller voir des combats, de se rendre compte de ce qu'est vraiment le MMA, une soirée MMA. Et ça va nous permettre de... Enfin, leur permettre, pardon, je dis nous, mais nous, parce qu'il y a William. mais justement, de générer d'autres revenus, de faire d'autres choses, et surtout de créer un produit phare déjà pour nous ici. Et après, le but, c'est d'aller le plus haut possible. Mais voilà, ce qui est mis en place, ce qu'ils mettent en place, honnêtement, c'est bien plus qu'honorable, et c'est une bonne chose pour les combattants français.
Ok. Quelque chose à rajouter par rapport à ça.
Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est très important pour les combattants d'avoir de la régularité, parce que c'est vrai que quand il y a une organisation comme Ares qui propose 10 événements cette année, il vise 20 événements en 2023, un combattant français, du coup, il peut se dire, je reste à Ares. Comme tu as dit, il y a les bonus qui sont à 10 000 euros, ce qui est énorme. Par exemple, Alexandra Tekena, elle a eu une bourse qui était hyper, donc pour ses débuts professionnels à Ares, elle a eu une bourse qui était hyper intéressante par rapport à tout ce qu'elle aurait pu avoir dans toutes les autres organisations, plus le bonus de KO de la soirée qui a été à 10 000 euros. Il n'y a pas grand monde qui commence son premier combat professionnel à 10 000 euros quand on sait qu'à l'UFC, le contrat d'entrée, c'est 10 000 plus 10 000. Et donc, c'est vrai que pour les combattants français, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent se dire, je peux rester en France parce qu'Ares, mine de rien, c'est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Il y a du monde en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà été à un événement, mais il y a du monde qui vient. En plus, financièrement, c'est intéressant. Je peux combattre régulièrement en 3. Et puis, à terme, enfin moi j'aimerais bien que ce soit ça pour Ares ou d'autres organisations françaises aussi, mais de se dire à la manière de ce qui se passe au KSW en Pologne ou au Rising au Japon, c'est de se dire on n'a peut-être pas besoin d'aller à l'UFC si on est un combattant français et qu'on est une star et dire je reste à Ares Fighting, je fais toute ma carrière, je suis traité comme un roi, je remplis, je sais pas à terme, le Bercy, je fais ça deux fois par an, franchement ça peut être un truc de mal et je pense qu'Ares peut faire ça.
Et après, réaliser un truc qui serait fou, un cross justement, Ares, UFC ou Ares ou autre. Et c'est là où nous, on sortirait, entre guillemets, vainqueur de ça. Et on montrerait, un, le savoir-faire français. Deux, l'exposition de nos combattants, puisque au-delà du fait qu'on parle que beaucoup du foot, parce qu'on a un vivier incroyable en Île-de-France, on a aussi un vivier incroyable en MMA. Et ça, j'en suis persuadé. Il y a des gens qui sortent. L'avènement aussi de Cyril, mais Francis, il s'est aussi entraîné en France. Donc tout ça, il y a toutes ces choses-là qui doivent être pensées. Enfin, dès maintenant, c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des projets, des collabs, c'est souvent long. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée des organisations qui s'affrontent, ça a peut-être été déjà fait ou pas, mais il y a un développement qui est certain et qui bénéficiera justement à tout le monde et qui permettra en fait à un sport comme le MMA qui partait en France. Pour certains peut-être de zéro, parce que certaines personnes ne connaissaient pas, mais en fait de passer de 0 à 10 et pas passer de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec différentes étapes, parce que là on pérennise un truc, la récurrence c'est surtout l'événement qui fait aussi la performance et permettre à ces fighters français de combattre assez régulièrement dans l'année en ayant un plan aussi sur l'année en disant voilà, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont des fois ils ont des short notices ou ils sont dans l'attente d'un combat, ils savent pas trop, ils se préparent mais au dernier moment non finalement tu peux pas, ou finalement tiens il y a un combat qui est prêt, qui est libre, vas-y, et il est pas forcément prêt mais il y va parce qu'il y a un peu d'argent etc. Et tout ça c'est de le changer, de créer quelque chose. Il y a vraiment après, je vais pas développer des trucs ici et c'est pas déposé, mais dans l'idée, demain, il y a énormément de choses que nous on fait pour des clients étrangers dans d'autres sports qui pourraient être faits pour le MMA. Ouais. Et sachant que ce qu'on demande est le matériel pour un mec qui a besoin de s'entraîner, c'est pas une piste d'athlée, ouais. Tu vois, t'as pas besoin d'être sur un stade tous les jours, même si tu dois courir un petit peu, mais avoir un espace dédié pour pouvoir s'entraîner, ça peut être fait. Et ça peut permettre de développer d'autres personnes, des écoles, des académies, etc. Ça se fait très bien aux États-Unis. Moi, j'ai été abasourdi par l'American Top Team. Franchement, tu arrives devant, oui, bonjour, vous êtes là, c'est pourquoi. Ouais, on a rendez-vous avec telle personne. Ok, attends, tac, il va regarder. Lui, il rentre, lui, il ne rentre pas. Lui, c'est qui? Ok, lui, il peut peut-être. Attends, demande. Non, il ne peut pas. Enfin, c'est vraiment, il y a un savoir-faire qui est mis en place. Et nous, je pense qu'il y a un savoir-faire parce qu'il y a des résultats. Et pour pérenniser tout ça, ça va être de créer aussi d'autres choses. Et bon, je pense qu'ils doivent avoir 10 000 idées, mais on a les moyens de le faire. Ouais. Et on a tellement de ressources en France, on a tellement de talents qu'il faut vraiment penser à l'utiliser.
On pourrait imaginer un cross UFC RS Fighting, comme tu as dit, peut-être dans le futur. Mais est-ce qu'on peut imaginer que RS Fighting concurrence l'UFC?
Après, tu sais, comment dire, y a les Américains ont un avantage, c'est la masse.
La masse.
Et, ouais. Et bien sûr que tu touches moins de monde. Après, vouloir les concurrencer, je ne sais pas si c'est...
Stratégiquement, ce n'est pas forcément...
Une bonne idée, ouais. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tu utilises la plateforme du UFC pour tes premiers combats. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est peut-être justement utiliser la caisse de résonance que peut avoir l'UFC pour grandir. Et à terme, je ne sais pas, je leur souhaite le meilleur, moi, de toute façon. Mais concurrencer, je ne sais pas.
Non, c'est... déjà, pour la cross-promotion, l'UFC, elle ne l'a jamais fait. Tout le monde en rêve, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais alors, moi, ce que je pense, c'est qu'ils peuvent... C'est impossible de concurrencer l'UFC mondialement, mais par contre en France, ils peuvent concurrencer l'UFC. Comme moi, je cite souvent cet exemple-là du KSW en Pologne. En gros, le KSW, ils font des plus gros chiffres que l'UFC en Pologne, sur le territoire polonais. Okay. Donc voilà, dans le monde, très compliqué parce qu'ils ont Connor, ils ont les superstars. Mais en France, c'est vrai qu'à terme, ils peuvent faire des trucs. Enfin là, il y a un combat qui arrive, c'est au mois de juin, Karla Moussou contre Abdul Abdouragimov chez Welter en moins de 77. Les gens sont des malades avec ça. Ah non, parce que c'est le folie. Voilà, c'est le plus gros combat de l'histoire du MMA français dans cette catégorie de poids. Et en soi, pour un choc franco-français, je pense que même l'UFC, ils peuvent pas. Enfin, aujourd'hui, ils peuvent pas faire un truc. Enfin, bon, faut que je me calme parce que c'est vrai que c'est pas franco-français, mais Cyril contre Francis, ouais. C'était une dinguerie. Ouais. Mais je veux dire, à part ça, aujourd'hui, ils peuvent pas faire un truc où tu sais que choc fratricide quasiment, ouais. Tu peux pas faire mieux en France. Mieux.
Tu peux pas faire mieux et ça va servir à tout le monde. Ça va servir à la France, ça va servir à toutes les personnes qui sont autour du MMA, ça va servir à la sueur parce qu'ils vont faire du contenu de ouf. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est tout un écosystème qu'il faut pousser, qu'il faut bien pousser et qu'il faut créer, fédérer et pour que ça soit une belle histoire en disant voilà, il y a deux ans on était là, aujourd'hui regardez où on en est et développer au maximum ce sport.
Et ça passe, ouais. Et puis, dernier point, ça passe aussi par des combats que les gens ont envie de voir. Parce que c'était, par exemple, il y avait Omar contre Paulin Béguin lors de. Paulin Béguin lors de. Arrête, je crois, 2-3. Enfin, c'était Arrête 3. C'est deux espoirs chez les moins de 93 kilos. Ils étaient tous les deux invaincus. Et il y avait 5-0 pour Omar et 3-0 ou 2-0 pour Paulin. Et donc, c'est des combats qui arrivent très tôt dans leur carrière, mais que les gens ont envie de voir. Ouais. Et ça passe par ça aussi, la croissance du MMA en France. C'est d'organiser des combats franco-français à des moments où les gars vont jouer très gros. Enfin, Abdul contre Karl. Si Karl gagne, Abdul peut dire, enfin, je vais pas dire adieu à l'UFC, mais c'est reparti pour 2 ans, quoi.
2 ans de galère.
Voilà. Et si par contre il bat Karl, là il s'établit clairement comme le numéro 1 welter des moins de 77 en France. Et là c'est parti pour l'UFC. Mais ça passe par des combats où, je vais pas dire les mecs jouent leur carrière, mais tu joues 2 ans de ta vie sur un combat.
Et encore. Et là on en vient à ce qu'on disait par rapport au côté un peu américain, c'est-à-dire que les États-Unis regardent ta carte de visite direct. Et là, ok, t'es numéro 1 là, en plus ça fait du bruit, ok, comment? Viens chez nous, on va faire en sorte que ça explose et être pour eux donc la meilleure organisation au monde, ouais. Et envoyer du lourd dessus.
Ok. Tout à l'heure, tu nous expliquais le fait que finalement l'UFC c'était une plateforme qui permettait à de nombreux combattants de se mettre en avant. Il y a le youtubeur Logan Paul qui ne cesse d'attaquer la plateforme, etc. Ton point de vue par rapport à ça, c'est quoi? Est-ce que lui, c'est en vrai une stratégie pour se vendre lui-même ou il pense vraiment à l'intérêt des combattants quand
il alors, il y a deux gars, donc il y a Logan et il y a Jake Paul. Donc
ouais,
Logan
Paul, il est un
petit peu... il y a Logan Paul qui est un petit peu moins vocal à ce sujet-là, donc c'est celui qui a affronté Floyd Mayweather et qui, lui, va peut-être faire un combat à l'UFC à terme. Le président de l'UFC a dit qu'il n'était pas opposé. Et il y a Jake Paul. Je pense que Jake Paul, il est sincère dans sa volonté d'augmenter les salaires des combattants, parce que c'est vrai que c'est pas normal de voir des Kamaru Usman, des Masvidal, donc qui sont champions dans leur catégorie, qui font peut-être 5 millions par combat. Donc pour beaucoup, ça peut paraître énorme de se dire « Ah oui, c'est une seule nuit, machin, il va gagner 5 millions, moi je mets même pas toute une vie pour gagner 5 millions. » Mais sauf que ces gars-là vont générer, sur les 5 millions, ils vont générer 100 millions, il n'y a que 5 millions qui leur revient, ce qui n'est pas normal. Donc lui, il se bat pour ça, mais je pense que ça lui permet, un, de faire parler de lui, et deux aussi, de piquer un petit peu l'UFC dans son orgueil et de dire « Bon, on va peut-être t'envoyer une star contre toi pour un peu te faire fermer ta bouche. »
Ouais.
Et si, c'est ce qui s'est passé aussi. Avec la première fois, il y a eu Ben Askren, donc il venait de l'UFC, qui a affronté Jake Paul, il s'est pris un KO. Ensuite, il y a eu le commentateur officiel de l'UFC, le président de l'UFC, et un petit peu toutes les figures de proue de l'UFC qui ont dit « Bon, ok, là, on va lui envoyer Tyrone Woodley, qui est un bon lutteur, mais qui est aussi un bon boxeur. » Donc, ils ne l'ont pas envoyé officiellement, mais en gros, il a été libéré de son contrat UFC parce qu'il était sur une série de défaites, et tout le monde a dit « Bah là, ça ne va pas être la même mayonnaise.
Okay. »
Il s'est pris un KO aussi, lors du deuxième combat, face à Jake Paul, mais
ouais.
tous les commentaires des gars de l'UFC ont servi aussi à vendre ce combat-là. Et là, aujourd'hui, le président de l'UFC, il est en train de dire « Bon, faut mettre quelqu'un de la taille de Jake Paul, il n'ira jamais à l'UFC, il n'ira jamais en MMA, il a peur de faire… » Enfin, il y a aussi pas mal, je pense, de négociations entre les deux pour faire en sorte que le président de l'UFC, il est en mode « Ok, tu commences à m'énerver, viens à l'UFC parce que ça va faire de l'argent et ça va être un vrai combat, ou alors t'affrontes un vrai gars qui vient soit de la boxe anglaise ou un mec de ton poids qui vient du MMA et on va en reparler. » Mais il y a beaucoup de provocations. Voilà, on se souvient de ce qui s'était passé entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Au début, il y avait beaucoup d'insultes. Finalement, ils ont fait le combat. L'UFC était copromoteur de l'événement. Tout le monde a récupéré énormément de sous. Voilà. Et à la base, ça partait de tweets sur les réseaux, de tweets et de provocations sur les réseaux sociaux.
Non, c'est clair. C'est clair.
Et sur un plan moins business, peut-être plus sportif, je pense qu'il aurait ses chances à l'UFC.
Non, il se ferait déchirer. faut être honnête là-dessus. Mais il y a beaucoup de combats aujourd'hui. Par exemple, Francis qui a envie d'affronter Tyson Fury, ou même quand Conor a voulu affronter Floyd Mayweather, c'est pas possible. Il n'y a aucune chance pour que Francis ou que Conor McGregor gagne contre Floyd Mayweather. C'est uniquement pour l'argent, mais ces gars-là méritent d'être payés, d'avoir ce combat. Enfin, Francis, aujourd'hui, il veut avoir 20 millions, il mérite d'avoir ces 20 millions, mais il n'y a que le combat contre Tyson Fury qui lui permettrait.
C'est ce que disait Tony Yoka dans une interview, mais ça a été mal perçu, j'ai l'impression, parce que les gens, peut-être qui pensaient qu'ils remettaient en cause le niveau de Francis, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie du public qui n'arrive pas à comprendre que c'est deux disciplines totalement différentes.
C'est ça, c'est exactement ça. Et surtout, ce qui est compliqué pour les gens, et ça je peux l'entendre, c'est que Francis se ferait déchirer par Tyson Fury en boxe anglaise, mais par contre, si Tyson Fury va en MMA, ce serait trois fois plus violent ce qui va se passer. Bah, déjà, ne serait-ce que Francis qui met un kick à Tyson Fury. Francis... Il va y avoir les rounds en boxe anglaise, il va se faire dépasser, mais il a déjà fait des sparring de boxe face à des gars comme Joe Joyce ou même Carlos Takam, donc il va être dépassé, mais il a connu ça. Tyson Fury qui se prend un kick, il n'a jamais pris de kick de sa life. Donc il va être en mode, ah oui d'accord, en fait c'est ce qui m'attend. Ouais. Donc après les gens n'ont qu'à regarder ce qui se passe, c'était au ONE FC, là il y a une semaine, ils avaient fait un combat entre deux combattants, un champion du monde de Muay Thai contre Demetrius Johnson, ancien champion de l'UFC. Il y avait un round de Muay Thai, un round de MMA. Première round de Muay Thai, donc le combattant de MMA, donc ancien champion UFC, survit pendant 3 minutes. Deuxième round, c'est du MMA. Le round de MMA, ça a duré quoi, 20 secondes. Il l'a mis au sol, il l'a étranglé, c'était plié. Donc, non mais, alors que c'était deux mecs qui sont dans leurs meilleures années et dans leur prime. Donc on sait ce qui se passe s'il y a un gars qui vient. Enfin voilà, Francis va essayer de survivre. Par contre, s'il est en MMA, il n'a aucune chance, Tyson Fury.
Mais après, voilà, le MMA aussi porte très bien son nom. Hein. C'est Mix Martial Arts. En vrai, quand tu vois tout ça, tu te dis, ok, on est conditionné pour tout. quand on est dans des salles, on fait du JJB. Enfin, il y a tout ça qui est dedans. Et dans beaucoup de trucs, c'est aujourd'hui, tu demandes à un mec qui fait du décathlon, qui fait 10 épreuves, de faire un 400. Il va pouvoir le faire. Mais va demander à un mec qui fait un 400 de faire un décathlon. Il aura des grosses, grosses faiblesses. Et donc, ça, on le voit et ça, on le sait. Mais pour beaucoup de personnes, c'est directement, entre guillemets, mal vu, mal pris. Et ce que dit Tony Yoka, il a complètement raison. Et ça, quand tu fais du sport de haut niveau, et même, t'as même pas besoin de faire du sport de haut niveau, il y a des choses que tu dois comprendre et que certaines personnes ont compris, et d'autres pas du tout. Donc faut que les gens se soient vraiment, entre guillemets, cohérents dans le fait qu'on peut pas tout faire. Mais les mecs du MMA dans divers sports d'arts martiaux, art martial ou le MMA, ils seront bons. Mais un mec qui fait de la boxe, il fera de la boxe et pas plus. Et quand tu mets un mec au sol, tu lui fais une guillotine ou autre, il y a des mecs qui prennent jamais de coups dans les jambes. Ouais, et là, il y a un mec qui va te mettre un high kick dans tes jambes et tu vas. Enfin, c'est complètement différent. Donc, ça, faut que les gens l'aient en tête. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les invite à suivre encore plus le MMA pour bien comprendre qu'un mec qui fait du MMA, c'est costaud. Et voilà.
Et dernier point aussi à ce sujet-là qui est important, c'est que Tony Yoka, quand on lui pose la question, et c'est ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'il rêve aussi d'affronter Tyson Fury. Donc un mec comme Tony Yoka, qui est aujourd'hui dans le top 10 mondial, qui a envie d'affronter Tyson Fury, on lui dit, quelqu'un qui a jamais fait de combat pro,
il va l'affronter
à ta place.
Il va prendre 20 millions.
Il va prendre 20 millions. C'est difficile pour lui de dire, ouais non, il n'y a pas de problème, même s'il apprécie Francis, de dire ça comme ça, bah, le gars il va passer devant moi gratos clairement. Ouais. C'est un petit peu difficile.
Est-ce que ça aurait peut-être eu été un... Enfin, est-ce que ça pourrait être un bon business peut-être de faire ce move avec Tony Yoka? Peut-être pour Tony Yoka et pour
Ça prend trop de temps. Enfin, pour de faire Tony Yoka contre Francis?
Ouais.
Ou... Ah oui, d'accord. Ouais, il y a eu ça. J'avais vu ça sur Twitter. Je pense qu'aujourd'hui, le problème... Francis, il veut aller en boxe anglaise parce que, un, il va se mesurer au meilleur au monde, mais aussi pour l'argent. S'il fait le combat aujourd'hui contre Tony Yoka,
c'est pas assez vendeur.
Bah, Francis la star. Ouais. C'est entre les deux, c'est Francis la star. Donc il va gagner beaucoup plus d'argent en faisant sa prochaine défense de ceinture qu'en affrontant Tony Yoka. Parce qu'en plus, il y a tout un business qui est important aussi à comprendre pour les gens, c'est que c'est le pay-per-view aux États-Unis. Mm-hmm. Tony Yoka contre Francis, ça va faire des sous. Enfin, le marché, il est en France. Et en France, personne ne va mettre $80 pour regarder un combat, comme ce qui se passe aux États-Unis.
Okay.
Donc, je pense que. Ouais, ils pourront faire des sparring, mais à mon avis, il n'y aura pas de vrai combat entre les deux.
On pourrait parler pendant des heures de sport, de business, mais du coup, on a des contraintes de temps. Et je vais vous laisser peut-être conclure avec des mots, une actualité, si vous avez des choses.
Avec l'UFC, avec l'UFC Harris Fighting, l'avantage, c'est que la machine ne s'arrête jamais. Donc, dans la nuit du 8 ou 9, ou du 9 au 10, il y a le retour de l'UFC avec Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns. Je ne sais pas quand sort le podcast, mais si il est déjà sorti à ce moment-là, ne manquez pas ce combat-là, parce que vous allez peut-être voir le futur Conor McGregor, en tout cas l'émergence de la nouvelle superstar de l'organisation. Et puis en France, il y a le 16 avril prochain, c'est Ares volume 5, donc avec le titre bantamweight et Taylor Lapillus, donc qui est le meilleur dans sa catégorie poids en Europe, et c'est peut-être son dernier combat avant l'UFC, donc n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir le sport.
Ok. Et moi, pour conclure, on sort d'une belle victoire de William à Abu Dhabi. Ça c'est plutôt bien. Donc là, du coup, on est sur un créneau de développement, un vrai créneau de développement. Et let's go. Coupons les micros et commençons.
En tout cas, merci à vous, messieurs.
Non, merci.
C'était un plaisir. Et on se retrouve pour un prochain numéro.
Merci.
Merci.